100 mètres de là, avec un centre super riche. Vous avez une villa qui appartenait au Shah d'Iran. Vous avez Charles Aznavour qui avait... voilà. Mais à l'époque, c'était un terrain en friche. Satan lui avait donné ça. Et avec les petites économies et les dons des fidèles de l'époque, peu à peu, ils ont construit ce bâtiment qui a été rénové. La toiture a été rénovée il y a quelques années, il y a 2-3 ans, là, qui est le cœur de l'Institut. Aujourd'hui, ça s'appelle l'Institut biblique de Genève, l'IBG. À l'époque, ça s'appelait l'École biblique de Genève. Et c'était un peu là le cœur sur cette propriété qui est magnifique. Il y a de très beaux arbres, il y a plusieurs hectares. Et vous avez un endroit qui s'appelle encore le chalet du fondateur, qui n'est pas du tout un chalet, c'est une maison, où vivait Monsieur Alexander, donc sur la propriété. Et ensuite, pour ceux qui sont allés, vous avez une très grande salle de réunion qui servait aux conférences quand l'Action biblique se réunissait tous les Pâques à l'époque, qui est différente de ça. Là, c'est le bâtiment où sont logés les étudiants et où ont lieu les cours. Il y a les salles à manger au rez-de-chaussée, les salles de réunion. Et dans les étages, vous avez des appartements pour les étudiants qui vivent sur place là, la première année d'institut. Donc depuis 1919, on a fêté les 100 ans il n'y a pas longtemps, il y a cet institut qui existe. Et cet institut, il est passé de École biblique de Genève à Institut biblique de Genève. Pourquoi ? Parce que jusqu'à la fin des années 80, c'était l'École biblique de Genève. Ça se passait en un an et c'était réservé aux gens qui venaient de l'Action biblique et qui retournaient dans l'Action biblique ou qui allaient en mission. Et puis, à la fin des années 80, il n'y avait plus suffisamment d'étudiants venant de l'Action biblique pour faire vivre cette école. Et donc, il y a eu un comité qui s'est réuni. Bon, à l'époque, moi, j'étais jeune, hein, donc je n'étais pas du tout dans les instances, mais je me souviens. Un comité qui s'est réuni et qui a dit, ben, si on veut que l'école survive, il va falloir trouver quelqu'un qui redresse, qui remette à plat la formule pour revitaliser l'école et lui donner une deuxième vie, un deuxième souffle, parce que en continuant à ce train-là, l'école aurait disparu dans les 10 ans. Il y avait de moins en moins d'élèves et économiquement, c'était plus viable. Et puis, on ne peut pas mobiliser plein de professeurs pour 8 élèves, et puis 6, et puis 4, et puis 3. Ce n'est pas possible. Hein. Donc, il y a eu un comité qui s'est réuni et ils ont embauché quelqu'un qui avait une expérience assez longue dans opération mobilisation et qui travaillait avec l'Institut biblique de Nogent à Paris à l'époque, qui s'appelle Mike Evans. Et Mike Evans a été embauché, il a vu ce qu'on lui proposait, il a proposé une formule, ça a été accepté. Et donc, il a mis en place cette nouvelle formule qui est devenue l'Institut biblique de Genève. Ça, c'était dans les années entre 92 et 94 que ça s'est produit. Vous avez les premières promotions de l'IBG qui datent donc du début des années 90. Mike Evans, il a fait jouer ses relations dans le monde évangélique, à la fois à l'étranger et puis dans le monde francophone. Et la différence du nouvel institut, c'est qu'il ne fonctionne pas seulement avec les gens de l'Action biblique, mais avec l'ensemble des églises de francophonie. Alors, c'est plutôt en France, la seule union qui ne soit pas française, c'est l'Action biblique suisse, mais toutes les autres, ce sont des unions françaises, et qui ont tendance à être dans un milieu qui s'appelait avant la FEF, qui s'appelle aujourd'hui le réseau FEF, qui réunit, on va dire, pour faire très vite, les mouvements évangéliques conservateurs non charismatiques. D'accord ? Donc vous avez dedans les CAEF, ce qu'on appelle les Frères Larges. Vous avez ce qui s'appelait France Mission, Vision France, etc. Je ne vais pas tous vous les dire. L'AEI, etc. Et donc, une grande partie des ressources de ces unions sont venues compléter pour permettre d'envoyer un volume d'étudiants suffisant et fournir des professeurs. Les étudiants, en première année, ils voient presque 60 professeurs dans l'année. Donc, c'est vous dire, les profs viennent pour une semaine. Moi-même, je suis prof. Je monte, je commence mon cours le lundi matin, je termine le vendredi. Et puis, les cours sont en matinée. L'après-midi, les étudiants ont des travaux obligatoires. Et après, le prof, il rentre chez lui. Et la semaine d'après, il y a deux profs qui arrivent et qui prennent le relais. Et il arrive qu'il y ait des cours qui durent sur 2 ou 3 semaines. Mais la plupart des cours en première année sont des cours d'introduction, d'initiation. Et je précise aussi que c'est un institut, c'est-à-dire que le but, c'est d'accueillir tout le monde et pas seulement ceux qui ont vocation à devenir pasteur. C'est pas le même niveau d'études que ce que fait Jans, par exemple, à la faculté Jean Calvin, où là, c'est une faculté, et où là, on vous demande d'avoir un niveau académique en rentrant. Voilà. À l'institut, vous pouvez venir, même si vous avez un CAP de plombier, et j'ai rien contre les plombiers, je suis bien content que ça existe, parce que sinon, on ne saurait pas quoi faire quand on a une fuite. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un haut niveau d'études. Et ce qu'on vous demande, quand vous arrivez à l'Institut, c'est vous aimez le Seigneur, vous êtes recommandé par votre Église, et vous voulez en apprendre davantage. Et ce qu'on va mesurer, ce n'est pas votre niveau académique, mais plutôt votre degré d'implication et de progression, à la fois dans l'apprentissage des contenus des cours, et aussi dans votre attitude. Puisque une des particularités de l'IBG, c'est le slogan, c'est de dire vous ne choisirez plus entre la théorie et la pratique. Donc il y a un contenu théorique, hein, théologique, qui essaye d'être qualité, même si c'est de l'initiation. Et puis il y a la mise en œuvre pratique. Il faut faire des services. Et cette année, ils ont une promotion de 40 étudiants qui ont vécu un an ensemble. Je peux vous dire que vous avez beau être chrétien, quand vous vivez à 40 dans les mêmes locaux, on voit tout de suite le mauvais caractère quand il est là. Et les étudiants sont aussi évalués là-dessus. Ils ont des temps de prière, des temps d'évaluation, etc. Donc cette nouvelle formule, elle a bien fonctionné, grâce à Dieu, et elle a permis de mettre en place un élan, même dans le monde francophone, avec un institut qui, probablement, dans nos milieux, est l'institut qui génère, qui attire le plus d'étudiants. Voilà. Même si on compare avec nos gens, même l'IBB, ne sont pas à ce niveau d'étudiants. Chaque institut a ses particularités. Mais l'IBG, en tout cas, fonctionne bien avec des projets qui fonctionnent bien. Et nous, en tant qu'Action Biblique France, nous sommes une des œuvres partenaires. Parce que pour nous, c'est le cœur historique de notre union, hein, là. Donc, avec l'Action Biblique Suisse, l'Action Biblique France, et puis d'autres de ces unions d'église que je vous ai mentionnées, il y a un comité qui entoure le directeur de l'école et qui préside aux grandes orientations de l'école pour qu'on continue à proclamer l'Évangile d'une façon qui nous semble convenable pour aujourd'hui. Évidemment, le fait d'être associé à l'Institut de façon historique et en tant que partenaire, ça veut dire qu'aussi, quand il y a des stagiaires qui cherchent des stages, eh bien, on va pouvoir, dans l'Action Biblique France, leur proposer des postes de stagiaires et nous-mêmes aller présenter nos besoins quand c'est possible, chaque année. Une autre œuvre qui est issue du travail du fondateur qui avait à cœur la jeunesse, c'est la jeunesse de l'Action Biblique. Donc ça, c'est une photo récente, mais depuis les années 30, en France, vous avez des camps qui se faisaient avec la JAB, un peu sur le modèle du scoutisme à l'époque. Après-guerre, ils ont abandonné les uniformes, mais avant, c'était la tradition, donc c'était un petit peu sous forme de scoutisme. Et vous aviez voilà des camps qui se faisaient dans différents centres, en particulier en France, au Contamine, un endroit que vous devez connaître, au moins de réputation. Et il y a encore des camps qui ont lieu tous les étés là. D'ailleurs, le premier commence aujourd'hui. Pour cet été, le camp de préado Contamine commence aujourd'hui. On a un désir, on a le désir de considérer que c'est un peu dans l'ADN de l'Action Biblique, l'Évangile doit être proclamé aussi aux enfants. On ne pense pas que c'est une affaire d'adultes. On pense que le Seigneur peut toucher et convaincre de péché, même un enfant. Alors, pour l'avoir vécu, je confesse que quand on a 7 ans et demi, on est loin d'avoir compris le manuel de théologie systématique et de pouvoir signer en bas, mais on pense qu'il peut y avoir un authentique appel du Seigneur et on veut responsabiliser les enfants et les inviter, non pas les convertir de force, personne ne peut faire ça ni ne doit chercher à le faire, mais au moins les inviter à considérer qu'il y a un Créateur avec qui ils doivent se réconcilier. Et vous avez beaucoup de nos églises locales qui ont des groupes d'enfants qui marchent bien. Mon église à Grasse, elle est née d'un groupe d'évangélisation auprès des enfants du Vieux-Grasse. 3 missionnaires suisses qui étaient venus dans les années 20 à Grasse et qui avaient évangélisé. À l'époque, dans les immigrés, ce n'était pas encore les Nord-Africains, c'était les Italiens. Et donc, toutes les vieilles familles de l'église de Grasse, elles ont des noms italiens, ce qui n'est pas très original. Hein, dans le sud de la France, il y a une immigration italienne très forte et qui s'est bien implantée depuis. Voilà, c'est pour dire qu'il y a un cœur pour la jeunesse et on veut continuer d'avoir ce cœur-là. Et si vous avez eu l'occasion de jeter un coup d'œil au manuel de membres de l'Action Biblique qui a été validé à la dernière Assemblée Générale et qu'on avait soumis aux églises locales, il y a une mention particulière pour la proclamation de l'Évangile auprès de la jeunesse. Pour nous, on y tient beaucoup. On pense qu'il ne faut pas attendre l'âge adulte pour inviter les jeunes à se tourner vers le Seigneur et aussi à considérer que le Seigneur a un plan pour leur vie et les appelle pas seulement à le connaître, mais aussi à le servir. On est appelé On est appelé par le Seigneur, pas seulement pour être sauvé en mode égoïste, mais aussi pour être disciple de Jésus-Christ à sa suite. Une autre branche de ce ministère du fondateur, qui a vraiment été un homme extrêmement créatif, c'est faire imprimer la Bible et la distribuer. Et donc là, vous connaissez, et puis vous avez au rez-de-chaussée quelque chose qui correspond à ce ministère, même si ça ne s'appelle pas Maison de la Bible, c'est dans le même principe. Il y avait des points de dépôt des Saintes Écritures qui parfois étaient associés à des petits commerces, et vous aviez des chrétiens qui avaient fait l'école biblique avec le fondateur, et ensuite qui faisaient des études bibliques dans leur arrière-boutique et qui proposaient la Bible. Et ce ministère s'est développé d'autant plus pendant la Seconde Guerre mondiale qu'avec l'occupation allemande, la Bible était devenue un livre interdit. Hein. À Berlin, il y avait des autodafés. Hein, vous savez, on brûlait les livres interdits. La Bible en faisait partie. Et il y a des colis qui ont été... Il y a des Bibles qui ont été imprimées avec des dons par le fondateur en Suisse et qui ont été envoyées par lot de deux ou trois qui passaient la frontière et qui ont alimenté la France. Et évidemment, ce ministère s'est développé. Donc, d'un côté, il y a eu la chaîne de librairie qui s'appelle les Maisons de la Bible, qui est aussi un site internet sur lequel vous pouvez commander la littérature biblique. Et puis, vous avez la Société biblique de Genève qui, elle, a pour vocation d'imprimer des Bibles dans les trois langues de la Suisse, c'est-à-dire français, allemand et italien. Voilà, c'est les trois langues. Alors maintenant, ils ont une branche qui fait les langues minoritaires, parce qu'il y avait une ancienne mission indépendante qui s'appelait Midi et qui a rejoint la Société biblique de Genève. Donc vous avez des petites langues. Par exemple, je crois qu'il y a une Bible qui a été éditée en wallisien, ce qui est la langue de Wallis et Futuna, et qui a été reprise par la Société biblique de Genève. Alors, je vous ai mis la tête du directeur actuel qui s'appelle Christophe Argot. J'ai oublié son prénom. Christophe Argot, qui est un homme remarquable et qui dirige actuellement la Maison de la Bible et la Société biblique de Genève. Et vous savez, il faut prier pour la pérennité des librairies chrétiennes et des maisons d'édition chrétiennes. Actuellement, culturellement, nos pays ne lisent plus du tout. Nous-mêmes, je pense qu'on a tous baissé nos habitudes de lecture au profit des écrans. Et vous avez réellement une crise économique des grandes maisons d'édition. Je discutais avec un collègue qui est directeur des éditions BLF, et ils ont un manque à gagner énorme, énorme. Et le problème, c'est que si vous ne vendez pas vos livres, vous ne pouvez pas produire l'édition de nouveaux livres, ni les rééditions. Parce que les livres, avant de les vendre, il faut les imprimer, les stocker, tout ça, ça coûte de l'argent. Donc voilà, un sujet de prière, que le Seigneur conduise, donne la sagesse, et puis pour savoir comment mieux gérer, réorienter les ministères, parce que je crois qu'il n'y a aucune maison d'édition chrétienne et aucune librairie chrétienne qui n'est épargnée par cette crise. On a donc, sous l'influence de l'Institut biblique de Genève, qui était notre institut de référence historiquement, comme je viens de le dire, et on a bénéficié du carnet d'adresses de Mike Evans, qui est lui-même d'origine galloise, et il avait, en ayant travaillé avec Opération Mobilisation, il connaissait énormément de collègues aux États-Unis, etc. Vous savez que le milieu évangélique aux États-Unis est très, très important. Il y a tout un tas de mouvements. Alors, tout n'est pas forcément en phase avec ce que nous croyons, mais il y a aussi de très bonnes choses qui sont développées là. Et il y a un mouvement qui s'est constitué au début des années 2000, qui aux États-Unis s'appelle la Gospel Coalition, je vous en reparlerai, et qui en France a fini par être connu sous le nom de Évangile 21. Et si vous voulez, cette Gospel Coalition, elle s'est constituée aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que il y avait tellement d'églises évangéliques américaines qui étaient en train d'édulcorer le contenu de l'Évangile pour le rendre acceptable par tout le monde, qu'on commençait à perdre. Vous voyez, par exemple, ce que j'ai fait ce matin en vous parlant du péché pendant 10 minutes, il y a des églises où c'était pas possible d'entendre ça. Parce qu'il faut pas choquer les gens, on va pas leur parler du péché. Mais si tu parles pas du péché, qu'est-ce que ça veut dire la grâce et comment on peut comprendre la croix, vous voyez? Et donc la Gospel Coalition aux États-Unis, il y a des hommes qui ont dit on doit mettre au centre l'évangile. Gospel en anglais, ça veut dire évangile, donc la coalition pour l'évangile. Et on doit avoir un mouvement de réveil dans les églises évangéliques américaines qui remet l'évangile de façon très exigeante au centre. Et donc on a des pasteurs qui se sont rassemblés pour fonder. Et il se trouve que ces pasteurs-là connaissaient Mike Evans très bien. Donc je parle de Don Carson, de John Piper, de Tim Keller. Donc c'est des hommes qui ont beaucoup écrit. Si vous avez une librairie, vous devez avoir pas mal de livres d'eux. Des hommes vraiment que le Seigneur a conduit à enseigner un évangile exigeant. Et Mike Evans, les connaissant, il a commencé à les inviter à l'IBG pour faire des conférences. Et peu à peu, se sont mises en place ces conférences d'Évangile 21 où on avait l'occasion d'entendre des orateurs qui, le reste du temps, en Europe francophone, étaient impossibles à écouter en vrai. Moi, j'ai eu l'occasion d'entendre prêcher John Piper, Don Carson. Malheureusement, j'ai manqué Tim Keller. Il est venu une fois. C'est la seule fois où je n'ai pas pu aller. Maintenant, il est décédé. Il est auprès du Seigneur. Mais on peut lire ses livres. Et tout ça pour vous dire que, et c'est important de le dire pour que vous compreniez bien notre identité, il y a des éléments de fidélité, de continuité avec l'action biblique du fondateur que je vous ai présenté. Il y a des éléments qui ont changé dans l'identité de l'action biblique. Le fondateur, comme je l'ai dit, il était dans une logique missionnaire. C'est-à-dire que pour lui, même s'il était fondé dans la connaissance des Écritures, faire beaucoup de théologie ne lui semblait pas très utile. Et réfléchir à ce qu'est l'Église, comment elle fonctionne, non plus. Pourquoi ? Parce que son but, c'était former des missionnaires pour les envoyer. Et je crois qu'à un moment, dans l'action biblique, il y avait des missionnaires dans plus de 100 pays dans le monde. C'est énorme, hein ? C'est vraiment énorme. Ça, c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est que les églises se sont constituées par défaut, en disant, bon, comment on fait ? Alors, qu'est-ce qu'on met dans le culte ? Comment on s'organise ? Qui dirige l'Église ? Et tout ça, c'était pas vraiment pensé de façon systématique, puisque c'était pas dans le projet initial du fondateur. Et on s'est retrouvé, moi je me souviens d'avoir vécu cette période, j'étais jeune adulte, dans les églises de l'Action biblique France, dans les années 80-90, à devoir se structurer juridiquement en disant quelle forme on donne, qui dirige l'église, est-ce que c'est un pasteur unique et tout le monde lui obéit, est-ce que c'est un groupe d'anciens, quelle est la place des membres, etc. Toutes ces choses-là qui s'étaient fait un peu en apprenant sur le tas, mais sans réflexion, on va dire fondée sur une étude des Écritures un peu approfondie. Et il se trouve que les ressources que nous a apportées Évangile 21 dans cette réflexion, en formant des pasteurs sur ces ressources et en nous invitant à réfléchir au texte fondateur, nous a amené à dire « Ah voilà, ce qui nous manquait, on a la fille missionnaire, on aime la parole de Dieu, on aime la proclamation de l'Évangile, mais ce qui nous manquait, c'était la réflexion structurée de l'ensemble de l'Écriture, un panorama de la doctrine chrétienne auquel on puisse souscrire. Et si vous voulez, jusque-là, on savait ce qu'on croyait, mais on ne savait pas l'expliquer de façon vraiment profonde théologiquement. Et avec cet apport-là, on a acquis des fondamentaux théologiques et doctrinaux qui peuvent nous dire, oui, pourquoi je ne suis pas pentecôtiste ? Pourquoi je ne suis pas favorable à l'évangile de la prospérité ? Pourquoi je ne suis pas adventiste ni témoin de Jéhovah ? Non seulement je sais dire ce que je crois, mais je sais aussi dire pourquoi je le crois et pourquoi je ne crois pas comme eux. Ce qui ne veut pas dire que je dois les mépriser. Je veux les respecter, je veux les inviter à considérer mon point de vue. On peut dialoguer avec eux, mais on est à une époque, nous en avons la conviction, et c'est pour ça qu'on a été amené à rédiger une confession de foi à partir de 2015, pendant 5 ans, et qui a été adoptée par les églises de l'époque en 2020. Et cette confession de foi, vous avez dû la voir passer. Elle est un peu exigeante. Au lieu de faire quelque chose qui soit minima et que tous les chrétiens puissent signer, on a essayé de mettre toutes les choses qui nous semblaient importantes dans la foi, sur la souveraineté de Dieu, sur son action dans la façon de nous sauver par rapport à l'élection divine, sur la constitution de l'Église, sur la direction de l'Église, sur la façon dont les dons qui étaient à l'époque des apôtres et puis les dons qui ont cessé une fois que le Nouveau Testament a été écrit, ce qu'on appelle le cessationnisme et qui fait qu'on n'est pas pentecôtiste. Et toutes ces choses-là, on a voulu les écrire de façon respectueuse, mais en même temps, pouvoir dire à nos membres, voilà notre identité, voilà ce qu'on croit, voilà ce qu'on prêche dans nos églises. Et ça, ça a été, si vous voulez, reforgé, on va dire, sur les 15 dernières années. Ça veut dire que jusque-là, on était dans un mouvement des évangéliques conservatrices, mais avec une identité qui était un peu diffuse. Et là, on a clairement précisé des choses de telle manière qu'aujourd'hui, l'identité de l'action biblique, elle est assez bien identifiée dans le monde évangélique. Et encore une fois, je pense qu'on essaye d'être respectueux, on doit l'être. C'est pas parce qu'on a une identité forte qu'on doit manquer de respect aux autres. Mais au moins, quand on a une identité forte, on ne va pas se laisser déstabiliser et on peut être en dialogue sans craindre d'être mal influencé. C'est un petit peu ça qui nous a poussé. Donc, si vous voulez voir la confession de foi, vous pourrez aller sur le site internet de l'Action Biblique France. Et j'ai pris en photo ce mur qui est un monument qui est à Genève. Premièrement, parce que notre union d'église, elle est attachée à Genève. C'est là que le fondateur, je vous l'ai dit, avait fondé son institut et proclamé son ministère. Mais aussi, elle est importante dans l'histoire du monde protestant, puisque c'est depuis Genève que Calvin, en ayant fui les persécutions du catholicisme à Paris, s'est réfugié. Et depuis là, il a influencé le monde entier. Vous avez dans le monde entier des gens qui sont influencés par la théologie de Calvin. En Corée du Sud, vous avez toutes les œuvres de Calvin qui sont traduites en coréen. En français, c'est difficile à trouver. En coréen, vous les avez. Et vous avez des gens en Écosse, aux États-Unis, au Canada, en Australie, etc., dans le monde entier. Alors, ce mur des réformateurs présente quatre réformateurs qui ont contribué à faire rayonner l'Évangile à leur époque, au XVIe siècle. Calvin, c'est le deuxième en partant de la gauche. Et donc, vous avez Farel, Calvin, Théodore de Bèze et Knox, John Knox, qui est un Écossais, qui est parti ensuite réformer l'Église d'Écosse. Et pour nous, il y a une forme de respect. Et il nous semble que, si vous voulez, on n'est pas favorable à l'idée qui est parfois dans le monde évangélique. Au début, il y avait les apôtres. Et puis, 1900 ans d'obscurantisme, et les évangéliques arrivent à nouveau sur Terre. À nouveau, l'Évangile est là. Pas du tout. On s'inscrit dans une histoire qui a une continuité, qui remonte aux réformateurs, qui remonte aux pré-réformateurs, et qui remonte même à certains théologiens réputés catholiques, mais à l'époque, il n'y avait que cette Église-là, des gens comme Augustin, par exemple, qu'on appelle saint Augustin dans le langage courant, et qui sont des auteurs avec lesquels on pourrait être d'accord à bien des égards. Et puis, vous savez, les chrétiens, pour eux, la seule référence, et c'est les réformateurs qui nous l'ont rappelé au XVIe siècle, c'est l'écriture, sola scriptura, seulement l'écriture. Après, on peut lire et écouter tout ce qu'ont écrit les autres théologiens, et pour nous, après, on compare avec ce que dit l'écriture. Voilà. Calvin se trompe, parfois. D'accord ? Par exemple, dans l'Action biblique, on n'est pas d'accord avec sa façon de considérer l'Église. D'accord ? Il a une conception de l'Église qui est un petit peu différente de la nôtre. Il baptise les enfants, etc. Nous, on a adopté un modèle d'Église qui est baptiste. C'est-à-dire qu'on est une Église de professants. On baptise des gens qui sont capables de dire « Oui, Jésus est mon sauveur et mon Seigneur ». Et quand les gens sont capables de dire ça et qu'on a vérifié qu'ils ne se trompent pas et qu'ils ne sont pas en train de dire une fantaisie, on les baptise. Donc ça, c'est du baptisme, du credo-baptisme. On baptise les gens qui croient. À l'époque de Calvin, les réformateurs baptisaient les enfants. Je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais c'est pour vous dire que, pour nous, il n'y a que Jésus qui est le Fils de Dieu et qui est la parole et la vérité, et seulement la Bible. Mais on pense que on ne sort pas comme ça, tout seul, de notre poche, la vérité. Elle s'inscrit aussi dans une logique historique qui passe par les réformateurs. Voilà actuellement l'Action biblique en France, en 2026. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Vous voyez les points qui sont mentionnés sur la carte. Et donc, les petits ronds dans lesquels il y a une croix. Donc, les ronds rouges, ce sont des implantations. Ce sont des projets d'implantation ou de revitalisation. Et les ronds oranges, ce sont des églises qui sont en dialogue ou en transition. Et les ronds bleus, ce sont des églises qui sont membres de plein droit, donc Marseille, maintenant, et membre de plein droit depuis... elle est membre en observation, mais elle est membre à part entière de l'Union. Elle a encore un an pour nous dire « Ok, on confirme » ou « Non, finalement, Fred, ça ne nous convient pas ». Mais voilà, vous êtes en bleu. Par contre, je vois que j'ai mis... oui, le rond bleu qui est à votre gauche, c'est Arles, hein, c'est pas Montpellier. Google Maps affiche les noms des grandes églises, mais il n'est pas forcément le nom. Et là, vous avez la liste. Alors, depuis où vous êtes, vous ne pouvez pas la lire, mais si vous voulez, la série de 18 lieux de culte en bleu, ce sont les églises qui sont membres. Celle qui est orange, l'abbaye du Saint-Ouen, en fait, elle a un effectif qui est tellement petit. Vous savez, la loi fait que si vous êtes moins de 7 membres, vous n'êtes plus une association cultuelle, et donc vous ne pouvez plus être considéré comme une église aux yeux de la loi. Donc, elle continue d'être associée à l'abbaye France, mais elle n'est pas membre de plein droit, puisque statutairement, ce n'est pas possible. Et puis les Verts, il y a deux projets, donc implantation et revitalisation, un projet qui est dans le Var à Draguignan, qui est porté par mon église, l'église de Grasse, et puis un projet qui est dans la région de Poitiers, revitalisation d'une petite église avec les frères et sœurs de l'église de l'Action Église de Lavosso. Et puis vous avez des églises qui sont en observation. Donc il y a une église à Cannes, une église baptiste à Cahors, qui est en réflexion depuis un petit moment et qui va prendre encore un peu son temps. Et puis il y a l'Action Église de Bonneville, et elle n'est pas en observation pour rentrer, elle est en observation pour sortir. Parce que on veut responsabiliser les églises comme on responsabilise les membres de nos églises. Et une église, elle n'est pas obligée d'être d'accord avec nous. Et nous, on ne veut pas réinventer l'église catholique. C'est-à-dire que moi, je suis président, ça veut dire que je coordonne la vie de l'Union, mais on n'a pas le droit de venir voir une église en lui disant « vous devez faire ça ». Par contre, on peut venir la voir en disant « notre identité dit que pour nous, le pentecôtisme, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve juste. Si vous voulez parler en langue pendant le culte, vous avez le droit de le faire, mais vous n'allez pas pouvoir rester dans l'abbaye. On va vous inviter fraternellement à rejoindre une union d'église qui correspondra à vos croyances si vous êtes devenu pentecôtiste. » Et c'est un petit peu, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un petit peu ce qui se passe avec les frères et sœurs de Bonneville. Quand ils ont vu notre manuel de membres, ils ont dit « ah non, ça ne convient pas », etc. Voilà. Ils auraient aimé que les femmes assurent la présidence des cultes, enfin différentes choses qu'on avait arbitrées différemment. Et on leur a dit « alors nous, on ne va pas changer de manuel de membres parce que toutes les autres églises sont majoritairement d'accord pour faire ça ». Et eux, ils étaient vraiment mal à l'aise avec ça. Enfin, ils voulaient aussi exercer le don de prophétie. Il y avait pas mal de choses qui n'étaient vraiment pas compatibles ni avec l'ADN de l'abbé originel, ni avec celui d'aujourd'hui. Et donc, on reste amis, on reste frères, hein, on continue de les bénir, mais on leur a dit, voilà, on ne veut pas vous mettre dans l'embarras. Pendant 2 ans, on va vous accompagner, on va essayer de vous trouver une autre union d'église qui correspond à ce que vous croyez. Et puis, quand cette nouvelle union d'église sera capable de vous prendre en charge, eh ben, vous arrêterez d'être membre de l'Action Église. Voilà. C'est un peu... On essaye de responsabiliser. Voilà. Et chaque église, pour nous, elle est souveraine d'elle-même. Elle est responsable devant Dieu. Et dans l'union, ne peut pas dire à une église, vous devez faire ça. Mais par contre, elle peut encourager l'église à faire, être facilitatrice, aider. Pour nous, qui dirige l'église? Le collège d'anciens, c'est-à-dire idéalement plusieurs anciens, quand il peut y en avoir plusieurs. Alors évidemment, Jean-Philippe, il est tout seul. Ben, il est bien content d'avoir Louis qui l'aide, et puis les frères et les sœurs qui sont autour. Et le collège d'anciens, le groupe d'anciens ou le conseil d'église dirige en dialogue avec l'assemblée des membres adhérents qui ont adhéré en ayant réfléchi à ce que c'est l'identité, en disant « Ok, moi je suis membre de cette église, je crois ce qu'elle croit, je suis d'accord avec ce qu'elle enseigne. » Et les anciens, ils expliquent aux membres et les membres, ils soutiennent les anciens et il y a ce cercle vertueux. Alors, bien sûr, ça c'est dans l'idéal quand tout va bien. De temps en temps, il peut y avoir des malentendus, des incompréhensions. Mais c'est ce modèle-là qu'on veut mettre en avant. Ce modèle-là, il s'appelle congrégationaliste, c'est-à-dire qu'il fonctionne comme une congrégation. D'accord ? Et c'est le modèle qui nous semble le plus proche de la description des églises qu'on voit dans le Nouveau Testament. Voilà, il y a 2 instances qui sont à la tête de l'Action Biblique France. Il y a une instance qui est plutôt spirituelle, qui dans une église correspondrait au conseil d'anciens. Et donc, vous avez mes collègues et moi-même qui sommes dans cette instance. Donc, Benoît Levis, il est pasteur à Ville-la-Grand. Mardoché Milwenge, il a fait ses études à l'Institut biblique de Bruxelles. Il est pasteur à Charenton, en région parisienne. Robin Watts, il est britannique et il est pasteur à Lavosso, près de Poitiers. Et puis, James Hammond, c'est un anglo-canadien qui était missionnaire et qui est devenu pasteur à l'Action biblique de Bordeaux. Et puis, moi-même, au centre, en bas. Et donc, nous, on essaye de réfléchir à vision de l'abbé France, projet... se charger des problèmes quand il y en a, éventuellement de dissension doctrinale ou d'accompagnement ou de discipline. Voilà. Les choses désagréables que doivent faire parfois les anciens dans une église, eh bien, on essaye de le faire au niveau de l'union quand c'est nécessaire. Et les choses agréables aussi, heureusement. Et puis là, vous avez un conseil d'administration, là, qui réunit plutôt le fonctionnement pratique. Donc c'est encore moi qui suis responsable, d'accord ? Officiellement, mon titre de président, il vient du conseil d'administration, puisque statutairement, la loi française, elle oblige à avoir une association avec un président, un trésorier, un secrétaire. Vous avez Denis Bush, qui est trésorier officiel, il est ancien à l'église de Ville-la-Grand, et puis Maud Delva, qui est une sœur, qui est mère de famille de l'église d'Étupes, et qui a un diplôme de comptabilité, qui est très précieuse, elle fait toute la comptabilité de l'abbé France, et qui remplit aussi le rôle d'assistante administrative, c'est-à-dire de secrétaire. Donc, dans le conseil, je précise que dans l'identité doctrinale de l'action biblique, on est ce qu'on appelle complémentarien, c'est-à-dire qu'on considère que les femmes ne peuvent pas être ni pasteurs, ni anciens, ni prêchés. Ça ne veut pas dire qu'on pense que nos sœurs ne doivent pas étudier la parole de Dieu et la proclamer autour d'elles, mais il me semble que dans le Nouveau Testament, il y a des mises en garde claires sur cet aspect-là. Pour nous, ces mises en garde, elles se limitent à l'enseignement de l'Écriture. Mais si on a une sœur qui est douée en comptabilité ou en organiser des choses, eh ben, on ne voit pas d'objection. Du moment qu'elle le fait dans un dialogue respectueux avec les responsables spirituels, on pense que c'est même une bénédiction pour le corps de Christ et qu'il y a de la place pour tout le monde. Et d'ailleurs, je crois que nos églises sont largement bénies par nos sœurs. Donc, c'est pour vous dire que Maud, elle ne pourrait pas être dans ce conseil-là, qui est le comité pastoral, mais par contre, dans le conseil d'administration, il n'y a aucun problème. Voilà. Et puis, vous avez Michael Plaine, il n'est pas réellement dans le conseil d'administration. Sa profession, c'est expert comptable et commissaire aux comptes. Il a un cabinet à Bordeaux. Il est ancien dans l'église de Bordeaux. Et par contre, il nous sert de conseil. Quand on a un problème juridique ou administratif, on peut lui poser des questions et il nous donne d'excellentes réponses parce que c'est son domaine de compétence. Là, ici, vous avez une commission de réflexion qui est un peu différente du comité pastoral, où là, on travaille sur des projets pour faire avancer les choses. Et on a notamment, avec cette commission, finalisé les 3 documents de référence. Donc, il y avait cette confession de foi dont je vous ai parlé, qui a été finie en 2020, et qui a été complétée avec les références bibliques. C'est Quentin Polinari, vous voyez complètement à droite, là-bas, qui a fait le référencement biblique. Il est pasteur à Héricourt. Il y a les nouveaux statuts. On a refondu complètement les statuts parce qu'on s'est aperçu que les statuts de l'action biblique dataient des années 90 et qu'il y avait plein de choses qu'on faisait plus du tout, qui marchaient plus comme ça. Par exemple, dans les années 90, vous pouviez être membre de l'action biblique sans aller dans aucune église d'action biblique en vivant au centre de la France et continuer d'être membre de l'action biblique. Et pour nous, on veut garder des liens avec tous les gens qui nous aiment bien, mais ça ne veut rien dire d'être membre de l'action biblique si vous êtes à 200 km de n'importe quelle église action biblique. Comment vous allez manifester votre attachement concrètement? Vous ne pouvez pas avoir un droit de vote à une assemblée générale alors que vous n'êtes pas dans une église action biblique. Donc on a changé nos statuts. Maintenant, les membres de l'action biblique, ce ne sont plus des gens, ce sont les églises. L'église de Marseille est membre de l'action biblique. Et vous êtes membre de l'église de Marseille. Vous voyez? Et là, il y a une logique. Puisque l'église de Marseille, elle rend compte de ses membres. Et dans l'Union, nous, on prend en compte les églises locales qui sont nos membres. Et donc, il y a le dernier document qu'on a terminé de rédiger, qui a aussi été approuvé. C'est le manuel des églises membres de l'Action biblique France, où là, on essaye de poser les grands principes. Qu'est-ce qu'on est? Comment on se positionne dans le monde évangélique? Comment on fonctionne? Qu'est-ce que c'est une église? Qu'est-ce que sont des anciens? Qu'est-ce que sont des diacres? Qu'est-ce que ça veut dire un ministère associé? On a des frères et des sœurs, ils sont dans des ministères qui ne sont pas forcément dans une église. Si vous êtes missionnaire à tel endroit, par exemple, on a une sœur qui s'appelait Eliane Martinez, qui était missionnaire au Niger, elle, quand elle est au Niger, elle n'est pas dans une église d'action biblique. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Maintenant, débrouille-toi, tu n'es plus dans l'action biblique. Pas du tout. Mais il faut qu'on a réfléchi à un système qui lui permettait de rester en lien avec l'union d'église, de pouvoir la soutenir, et en même temps en lui donnant une église de rattachement. Son église de rattachement, c'est Étupes, c'est là d'où elle est originaire, de pays de Montbéliard. Vous avez aussi un autre exemple. On a 3 pasteurs qui sont aumôniers dans l'armée. Eux, c'est pareil. L'armée, tous les 3 ou 4 ans, elle leur demande de déménager. Un coup, ils sont à Orléans, un coup, ils sont à Salon de Provence, un coup, ils vont être en Martinique, ou sans parler du fait qu'ils doivent des fois faire des opérations en Outre-mer, au Mali ou au Liban dernièrement, ou en Ukraine, enfin, ou à proximité de l'Ukraine, en Roumanie. Donc, là aussi, c'est des gens qui bougent. On a fait un statut spécial pour exprimer leur rattachement. Mais ils vont pas avoir un droit de vote aux assemblées générales. On va leur demander de se rattacher à une église si c'est possible. Si c'est pas possible, on garde un lien avec eux. Voilà. Tout ça, il fallait le préciser parce que les conditions de l'action biblique ont évolué avec notre monde et on s'en réjouit. Et parce qu'il y a aussi une croissance. Je sais pas si vous aviez une idée de la taille de l'Union avant, mais là, en moins de 10 ans, on a doublé de taille. Moi, quand j'étais dans l'action biblique, il y a une quinzaine d'années, on avait 10 lieux de culte. Là, on en a 22. D'accord ? C'est pas beaucoup hein, à l'échelle de la France. Hein. Il y a, pour vous donner un ordre d'idée, il y a comment dire, Sébastien Fatt, le spécialiste du CNRS des évangéliques, dit qu'on a passé le cap des 1 million d'évangéliques en France. Il y a environ 2700 à 3000 églises en France. Donc 20 églises, c'est une goutte d'eau, hein, on est d'accord. Mais malgré tout, on a doublé de taille en une quinzaine d'années. Et comment, quels sont les facteurs de croissance? Premièrement, des implantations. On essaye d'entretenir un dynamisme d'implantation avec des projets qui, au fur et à mesure, chaque année ou tous les deux ou trois ans, rajoutent une ou deux nouvelles églises. Et puis, il y a des églises indépendantes, puisque dans le monde évangélique en France, il y a beaucoup d'églises qui sont rattachées à aucune union et qui parfois se disent pourquoi rester tout seul? Il y a certaines ressources, quand on est indépendant tout seul dans son coin, on ne va pas y avoir accès. Les relations avec les instituts, les relations juridiques, etc. deviennent compliquées. En plus, on est probablement un des pays les plus procéduriers au monde. Donc, si vous êtes responsable d'une église indépendante, c'est l'enfer. Parce que vous avez des milliers de formulaires à remplir et vous ne savez pas où aller les chercher. Et donc, il y a beaucoup d'églises indépendantes qui cherchent des mouvements auxquels se rattacher. Et alors, je ne dis pas que toutes les églises indépendantes viennent chez nous, pas du tout. Mais celles qui sont proches, celles qui ont entendu parler de l'identité de l'abbé en disant « Ah tiens, néo-calviniste, évangile 21, ça nous parle. Vous aimez la proclamation de l'évangile, vous êtes complémentarien, vous n'êtes pas pentecôtiste. C'est aussi ce qu'on croit. Est-ce qu'on peut se joindre à vous ?» Eh bien, on a pas mal d'églises qui ont fait cette démarche-là ces dernières années et qui ont contribué à faire grandir aussi notre union d'églises. Et chaque année, on a des églises qui sont en observation et qui sont en réflexion pour nous rejoindre. Et de temps en temps aussi, des églises qui veulent nous quitter parce qu'elles considèrent que ce qu'on leur propose ne leur convient pas. Je voulais juste vous montrer, avant de passer à ça, si j'arrive à le trouver. Ah non, alors oui, c'est bien. Un exemple de la circulaire de prière, je ne sais pas si vous avez l'occasion de la parcourir. Pourquoi on ne la voit pas? Non, on ne la voit pas. Bon, c'est tombé. Il y a une circulaire de prière qui est éditée. Si vous avez à cœur de la lire, ou si vous n'y êtes pas abonné, je vous encourage à le demander, l'adresse. Il y a un petit formulaire à remplir, c'est gratuit. On envoie des nouvelles de toute l'action biblique deux fois par an, une fois en automne, une fois au printemps. Et vous allez avoir des petits articles qui vous présentent l'église un tel, tel missionnaire, etc. Ça donne des sujets de prière et ça permet de comprendre l'union. Et bien sûr, l'action biblique de Marseille peut tout à fait envoyer une photo et des sujets de prière. Donc c'est réservé aux églises membres et aux ministères associés. Là, vous avez, et vous pouvez reconnaître Louis et Jean-Philippe qui étaient avec nous. D'ailleurs, je crois que la photo, c'est avec l'appareil de Louis. C'est la pastorale. Depuis quelques années, on se réunit dans le centre de la France, au nord de Lyon, en direction des monts du Beaujolais Vert. Un très bel endroit, un gîte, au mois de novembre, où on essaye de réunir les anciens et les pasteurs qui peuvent se libérer. Alors, c'est en milieu de semaine. Donc, en général, on a soit des retraités, soit des temps pleins. Mais c'est sûr que le gars qui est ancien dans son église et qui est prof, il ne peut pas dire « je ne fais pas cours cette semaine et je vais à la pastorale à Béfrance ». On a quand même privilégié ce créneau-là parce que ça nous semble plus confortable qu'un week-end où là, ça casse le pied à tous les pasteurs de ne pas être là le week-end dans leur église. Donc là, on est une petite trentaine chaque année avec des collègues qui viennent d'un peu toute la France. Ça représente à peu près la moitié des anciens de toutes les églises d'Action Biblique France. On est un peu moins de 60. Et là, on est à peu près 30, 29, 30. D'accord ? Donc, c'est pas mal. Pendant 3 jours, on s'encourage, on prie les uns pour les autres, on prend des nouvelles, on étudie la parole de Dieu. On va se promener au bord du lac, on loue un gîte communautaire avec une salle à manger, une cuisine. On arrive avec notre équipe de cuisine. Et puis, on va se promener de temps en temps au bord du lac quand on a suffisamment discuté, et ça fait du bien. Et le Seigneur nous bénit. Et on pense que la communion fraternelle entre nos églises passe aussi à travers le fait qu'on doit encourager tous ceux qui sont dans le ministère. Vous savez, dans le passé, pendant longtemps dans le monde évangélique, les gens qui étaient à la tête d'une église, on leur disait « voilà ton église, t'es responsable », et puis ils se débrouillaient tout seuls pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, et ça finissait parfois par des drames, par des gens qui se remplissaient d'amertume, qui déprimaient, qui faisaient des burn-out, on appelait ça, pas ça des burn-out, mais c'était quand même ça, et c'est pas juste, c'est pas de bonnes conditions. Nous, on veut donner aux gens qui nous rejoignent l'occasion de travailler en équipe, d'avoir des référents, d'avoir d'autres collègues avec qui discuter, d'avoir des ressources, d'avoir des gens pour prier, avec lesquels prier, et si possible aussi d'avoir sur place, de constituer des équipes de collaboration pour ne pas se retrouver tout seul dans le ministère. Même si parfois, il y a des phases de transition où on n'a pas le choix, et il faut faire un effort, mais dans l'idéal, si on peut éviter, on évite. L'Action Biblique France, elle collecte aussi des fonds, hein, vous payez, quand vous êtes membre, l'Union, l'Église membre, elle paye en fonction du nombre de gens qui fréquentent l'Église une cotisation annuelle. Cette cotisation, elle sert à payer les frais de fonctionnement de l'Église et aussi elle alimente un pot commun qui permet de payer des bourses à des personnes. On veut encourager les frères et les sœurs de nos églises à se former. Si vous avez quelqu'un dans votre Église que vous voulez encourager à se former pour aller faire, par exemple, une première année à l'IBG, eh bien, vous pouvez dire... Nous, on va l'encourager financièrement, mais on va le dire à l'Action Biblique France, et l'Action Biblique France, elle va aussi lui allouer une bourse pour une aide supplémentaire. On n'a pas la possibilité de tout payer, parce que ça coûte cher, les études, et que l'Action Biblique France, elle n'est pas multimillionnaire, mais on veut encourager de façon vraiment intentionnelle et proactive. Et vous voyez, en 2025, on avait 11 boursiers, des personnes qui ont, à différents niveaux, bénéficié de bourses de notre Union d'Église, et ça, on s'en réjouit, et c'est quelque chose qu'on veut promouvoir, une étude sérieuse, une formation sérieuse. Pour servir le Seigneur, il faut se former avec un contenu exigeant, et on n'est pas obligé de se former à l'IBG. L'IBG convient à certains profils, pas à d'autres. Moi, j'ai fait mes études à la faculté Jean Calvin, j'ai jamais été étudiant à l'IBG, je suis prof maintenant à l'IBG, mais j'ai pas été étudiant, parce que le Seigneur avait conduit comme ça dans mon profil de carrière. Vous avez des gens qui sont formés à l'Institut biblique de Bruxelles, vous avez des gens qui sont formés, Etherlingo, là-haut, il est en train de se former au Québec, à Shawinigan, avec Mathieu Caron, William Kupfel aussi. Bon, voilà. Je ne vais pas vous brosser tous les instituts, mais nous, en fait, quand une église locale recherche un pasteur, on essaye d'être en dialogue avec ce pasteur, ce futur pasteur, pour lui dire, voilà l'identité de l'abbé France, voilà comment on peut aider, voilà ce qu'on est. Et après, c'est à l'église locale de prendre ses responsabilités en disant « oui, on embauche » ou « non, on n'embauche pas ». Ce n'est pas l'Union qui dit « vous devez embaucher ». C'est l'église locale qui décide. Mais nous, on veut aider, soutenir, encourager, faciliter. Il y a aussi une gestion administrative. Quand vous avez un pasteur qui est embauché avec un salaire par une église, nous, on a, au niveau de l'Union d'église, souscrit une protection sociale adaptée. Vous avez bulletin de salaire, mutuelle de santé, assurance, invalidité, incapacité, décès, l'équivalent d'une couverture sociale pour pasteur qui dépend de l'Action Biblique France, et l'église qui embauche le pasteur peut dire « moi j'embauche un pasteur, est-ce qu'il peut bénéficier de ce compte ?» Et à ce moment-là, on met en place une convention et le pasteur de l'église locale bénéficie de cette convention. Donc l'union d'église, elle a son intérêt. L'Action Biblique France, elle porte aussi l'image de l'Action Biblique, cette identité dont je vous ai parlé, au sein des instances évangéliques. Et dans les instances évangéliques ont beaucoup bougé ces dernières années. Vous avez, il y a quelques années, quand j'étais jeune, ça existait déjà, un mouvement qui s'appelait la FEF, Fédération évangélique de France, qui était vraiment les évangéliques non charismatiques. Et l'ambiance entre la FEF et les pentecôtistes n'était pas très bonne, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment chacun considéré que les autres n'étaient pas vraiment chrétiens. Alors, eux, ils considéraient que, comme on ne parlait pas en langue, on n'avait pas le Saint-Esprit. Et nous, on considérait que, quand ils parlaient en langue, c'est qu'ils étaient possédés par Satan. Et donc, c'était difficile de se respecter en se considérant de cette manière-là. À la fin des années 90, dans une réunion publique, il y a des responsables de la FEF qui se sont levés, qui ont dit « on veut demander pardon ». Parce que dans la réunion publique, il y avait des représentants des assemblées de Dieu. On veut demander pardon en disant « on vous a mal considéré pendant des années, ce n'est pas juste devant le Seigneur. On a le droit d'être en désaccord sur des points de doctrine, mais ça ne fait pas de vous un suppôt de Satan. Il ne faut pas tout mélanger entre un sataniste et un pentecôtiste. Il y a quand même, les pentecôtistes seront au ciel avec nous, pas les satanistes et pas les athées. » Donc, et vous voyez, on avait un petit peu tendance à aplatir l'importance des doctrines en disant « si tu ne crois pas comme moi jusque dans les moindres détails, alors arrière de moi Satan. » Ce n'est pas très juste. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Et il a fallu, le monde évangélique francophone s'est reconfiguré. Donc, ce qui était la FEF à laquelle nous appartenions et nous appartenons toujours est devenu le réseau FEF, Réseau Fraternel Évangélique de France, qui réunit à peu près 420 églises conservatrices. Donc, dans le réseau faible, vous en avez en région marseillaise. Hein. Tout ce qui s'appelle le CEP, ça fait partie du réseau faible. Les églises CAEF, de Frères Larges, vous avez toutes les perspectives appartiennent au réseau FEF, France Mission, etc. Je ne vais pas tout vous les dire. Voilà. Nous, dans le réseau FEF, l'action publique tient sa place et dans l'éventail du réseau FEF, on est plutôt la branche conservatrice du réseau FEF. Des gens dans le réseau FEF qui sont un peu plus ouverts que nous, notamment sur les ministères féminins. Voilà. Il y a des unions d'églises du réseau FEF où les femmes peuvent être pasteurs. Pour nous, ce n'est pas possible. Donc, vous voyez, en fait, n'importe quel mouvement humain, vous avez toujours les progressistes et les conservateurs. Hein. Donc, nous, l'abbé, on a plutôt tendance à être conservateur à chaque fois. C'est pas parce que c'est pas une finalité en soi hein, d'être conservateur. On sera pas au ciel parce qu'on est conservateur. Mais pour nous, il y a quand même une importance de ce que demande la parole et qu'on veut pas remettre en cause parce que c'est plus à la mode dans la société autour de nous. On veut proclamer l'évangile, être accueillant. Par exemple, on veut pas avoir du mépris, de l'arrogance à l'égard des personnes qui ont une attirance homosexuelle. Mais on ne va pas pour autant leur cacher que la Bible condamne la pratique homosexuelle. Et on va les inviter à se placer sous l'autorité du Seigneur pour être renouvelés dans leur vision des choses. Vous voyez ? Donc, on ne veut pas être homophobe, parce que ça serait une offense au Seigneur, mais on ne veut pas non plus être complaisant en disant « Oh, c'est pas très grave. Hein » Vous voyez ? J'essaye de vous dire un petit peu, c'est pas toujours simple d'être conservateur à une époque où toute la société est très progressiste. On est dans le réseau FEF, et le réseau FEF lui-même prend place dans un ensemble qui s'appelle le Conseil national des évangéliques de France, qui réunit 70% des évangéliques. Et alors là, vous avez, dans le Conseil national des évangéliques de France, vous avez toutes les tendances du monde évangélique. Vous avez quatre groupes d'églises. Vous avez un groupe d'églises qui s'appelle un pôle d'églises qui est formé par les pentecôtistes des assemblées de Dieu, parce qu'ils sont tellement nombreux qu'à eux tout seuls, ils font un pôle. Ça représente presque un quart des évangéliques en France. 550 églises. Vous avez un pôle qui est constitué par toutes les églises pentecôtistes et charismatiques qui ne sont pas des assemblées de Dieu. Ça fait un deuxième pôle aussi très important. Vous avez un troisième pôle qui est constitué par des églises qui viennent de la Fédération protestante de France et qui sont adhérentes du CNEF. Je ne vais pas développer la Fédération protestante de France, ça va vous embrouiller les idées. C'est une autre fédération. Et le quatrième pôle, c'est le réseau FEF. Donc, on est dans un des quatre pôles du Conseil national des évangéliques de France. Et le Conseil national des évangéliques de France, il n'a pas pour vocation de dire ce qu'on doit croire, mais il essaie de mettre en place des outils, par exemple des outils administratifs, des outils juridiques, pour aider les églises à fonctionner en conformité avec la loi et parfois aussi communiquer dans les médias. Et bien qu'on ait pas mal de désaccords doctrinaux au sein du monde évangélique selon une tendance ou une autre, pour l'instant, la plupart des évangéliques, sur le plan de l'éthique ou de la morale, en ce qui concerne, par exemple, l'avortement, le mariage pour tous, ce genre de questions-là, la totalité des évangéliques ont tendance, en France pour l'instant, à être d'accord. Ça veut dire que le CNEF, de temps en temps, il va faire une publication en disant « on comprend les aspirations de nos contemporains à vouloir prendre en compte les homosexuels, il ne nous semble pas qu'ouvrir le mariage, qui est une institution divine, soit une bonne chose. » Et ce genre de publication dans les médias, fait par des gens qui savent bien communiquer, au nom de tous les évangéliques, ça peut passer par le CNEF. D'accord ? Par contre, le CNEF ne va pas nous dire « maintenant, l'action publique doit parler en langue », parce que la majorité de nos membres sont pentecôtistes. Ce n'est pas leur rôle, ils ne veulent pas le faire. D'accord ? C'est une sorte de parlement où on apprend à dialoguer ensemble pour communiquer de façon efficace à l'égard des médias. Le CNEF, le directeur du CNEF, qui actuellement s'appelle Clément Diedrich, il a un vis-à-vis direct au ministère de l'Intérieur et des Cultes, un secrétaire d'État qui est chargé des relations avec les évangéliques et les protestants. Et ils se connaissent, et quand il y a un problème, il peut en parler. Et vous voyez, pour nous, ça, c'est très précieux. Parce que on est dans un pays qui, pendant longtemps, a considéré que chrétien égale catholique. Et si vous n'êtes pas catholique, vous êtes dans une secte. Et les hommes politiques en France ne comprennent rien au fonctionnement des évangéliques. Vous allez les voir, ils vont vous dire « vous êtes Trump, vous êtes Bolsonaro, ou est-ce que vous êtes comme les témoins de Jéhovah ?» Ben, c'est à chaque fois, non, ça tombe, c'est comme la bataille navale, ça tombe à côté, là, t'as rien touché. Hein. Je suis aucun de tous ces trucs-là. Donc, le fait qu'on ait une instance qui s'entende, qui essaye de rendre un témoignage respectueux, on se respecte les uns les autres. Et quand il y a une communication à faire qui explique avec les mots que les médias peuvent comprendre, il nous semble que c'est un plus. Voilà. Mais on est d'accord que ce n'est pas le CNEF, ni même le réseau FEF qui nous dit ce qu'on doit croire. Pour nous, ce qui nous dit, ce qui oriente ce qu'on croit et ce qu'on enseigne, c'est notre confession de foi et le dialogue entre tous les pasteurs de toutes nos églises membres qui forment l'Assemblée Générale de l'AB France et qui dit « Ok, on fait comme ça, ok, on peut aller de l'avant, etc. » On est influencé et on soutient et on collabore avec ces mouvements-là. Donc je vous ai parlé Évangile 21, vous voyez là-bas à droite, j'en ai parlé, c'est la branche francophone de The Gospel Coalition, TGC, dont je vous ai parlé avec Mike Evans, etc., qui est un site de ressources, qui fait des séminaires tous les deux ans à l'IBG. Allez taper sur Internet Évangile 21, vous allez voir, il y a vraiment beaucoup d'articles, vous avez des podcasts très intéressants. Vous avez un autre site de ressources qui s'appelle Tout pour sa gloire, que vous connaissez sans doute, qui a été fondé par un gars qui est maintenant pasteur dans l'Action Unie de France, à Étupes, Mathieu Giralt, en collaboration avec Stéphane Capitanuc, qui est le directeur des éditions BLF. Et ça a vraiment pris beaucoup d'ampleur. Ça offre de très très bonnes ressources. J'imagine que vous connaissez ça, mais c'est pour vous dire qu'on est à l'aise et qu'il y a des gens de l'Action Unie qui sont dans ces ressources et qu'on utilise leurs ressources dans nos églises. Il y a un ministère qui s'appelle Nine Marks, ça veut dire les 9 marks, 9 marques en français. Les 9 marques de quoi ? Les 9 marques d'une église en bonne santé. C'est un livre qui a été écrit par un pasteur américain qui s'appelle Marc Dever et qui a essayé de revisiter avec les yeux d'aujourd'hui quels sont les signes d'une église en bonne santé aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ? Par exemple, la centralité de la parole, la Bible à l'honneur, la centralité de Jésus-Christ dans l'évangile qu'on prend. Si vous faites tout un message et que vous n'avez jamais parlé de Jésus, on peut dire, mais il manque l'essentiel là. Vous voyez ? Ce genre de choses-là, une assemblée de membres avec des membres qui sont responsabilisés dans leur rôle de prière et de soutien des anciens qui collaborent. Bref, je ne vais pas vous réciter les 9 marques, mais voilà, c'est un mouvement qu'on apprécie, et on l'apprécie tellement qu'on a beaucoup de pasteurs qui sont allés se former à l'église qui est le soutien là-bas à Washington. Et aussi, on a organisé l'Action Unie France, elle a été décisive dans l'organisation de conférences en France avec ces ressources-là. En 2023, en 2025, et il y en a une prévue en 2027. Tous les deux ans, en alternance avec les conférences Évangile 21, on va organiser ces conférences-là, et c'est des conférences qui servent pour apporter des ressources aux pasteurs et aux anciens des églises. Et puis, vous avez 2 Timothée 2,2, qui est aussi un mouvement avec lequel on collabore, parce qu'eux, ils attribuent des bourses aux étudiants qui sont significatives, parce que les études, ça coûte cher. Quand vous dites à un jeune couple... Arrêtez votre vie de tous les jours et puis allez faire l'institut biblique pour que le mari devienne pasteur. Ben oui, mais on vit de quoi pendant tout ce temps ? Donc il faut faire des économies, il faut trouver des soutiens. Et vous avez des fois des fonds de bourse alimentés par des fonds étrangers, les évangéliques sont plus nombreux ailleurs qu'en France, et qui arrivent avec des sommes substantielles qui permettent à des personnes de se former. Donc voilà. C'est pour vous dire qu'on choisit nos collaborations dans le domaine doctrinal. Ce n'est pas parce qu'on est dans le CNEF ou le réseau FEF qu'on est indifférencié. Ça, je vous l'ai déjà dit, donc je ne reviens pas. Notre désir aussi, et je pense que ça, c'était dans l'ADN de l'AB France, de l'Action biblique dès le début, on ne veut pas seulement être égoïste en disant on va être les plus forts, on va être les plus beaux, on va être les plus chauds. On veut bénir au-delà des églises de l'AB. On pense que l'Action biblique, elle veut incarner l'évangile là où le Seigneur l'appelle, mais elle veut aussi collaborer à tout ce qui est bon, et si elle peut aider d'autres églises, d'autres mouvements, à découvrir des choses et aller dans la bonne direction, on veut influencer, mais pas dans le sens « ne cherche pas à réfléchir et fais ce que je te dis », mais dans le sens « est-ce que tu connais ça ? Ça, c'est intéressant. Regarde les ressources, etc. » Donc, voilà, je vous ai mis des photos d'orateurs, voilà, Mathieu Giralt, il est allé participer à un séminaire à la faculté Jean Calvin, la photo du haut. Il a été formé à Washington, D.C., donc avec Marc Dever, le fondateur de Nine Marks dont je vous parlais. On est actuellement en train de terminer la traduction d'un excellent documentaire à laquelle l'Église de Marseille a contribué d'ailleurs financièrement, et vous serez au générique, American Gospel, Chris Delorme, qui est un documentaire qui proclame l'Évangile en dénonçant la menace que fait peser l'Évangile de la prospérité, qui est en train de se diffuser depuis les États-Unis, où on confond être sauvé avec le Seigneur et gagner beaucoup d'argent. Si tu fais ce que le Seigneur te demande, tu vas être riche comme le pasteur qui a une Rolex et qui roule en BMW. Vous voyez un peu le genre, on confond complètement, hein, d'accord ? Et vous avez des églises aux États-Unis qui fonctionnent sur ce modèle-là. Et donc, on veut faire, on a fait traduire, c'est terminé. Là, on est en train de travailler sur le générique. Et on veut le diffuser gratuitement sur YouTube, avec un titre français qui va parler aux Français. On est encore en train de chercher le titre, mais le but, c'est de montrer aux évangéliques français et aux Français que tout ce qui s'appelle évangélique n'est pas forcément évangélique. Vous voyez ? Vous savez quel est quel pasteur francophone est le plus écouté en francophonie ? Non, c'est pas que je dis une bêtise. Quel pasteur est le plus, dont les prédications sont le plus écoutées dans les pays francophones du monde ? Jess Meyer. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Jess Meyer, c'est une femme pasteur qui sort l'évangile de la prospérité. Ben, c'est elle le pasteur le plus écouté dans la francophonie. Et c'est une catastrophe. Parce que Jess Meyer, elle est bien gentille, mais il faut vraiment une loupe avec un fort grossissement pour trouver l'évangile dans ce qu'elle annonce. Ça part dans tous les sens, ça dit n'importe quoi. Et vous avez des gens qui considèrent que Jess Meyer, c'est la référence. Alors que pas du tout. Et c'est triste. Donc, vous voyez, on a aussi un rôle, et là, on retrouve notre identité d'Action Biblique, parce que le fondateur, hein, à l'origine, il s'est pas fait que des amis en disant « on va être attaché à la parole, le libéralisme, c'est pas la bonne voie ». Il y a des gens qui ont essayé de le faire calomnier et expulser de Suisse. Hein. Je sais pas si vous le savez, mais il avait fait une nuit en prison, parce que il avait fait l'objet d'une délation calomnieuse. Il a été libéré ensuite, innocenté, mais voilà. Donc, ça veut dire que... dans ce rôle-là, on essaye d'être respectueux des autres, mais tout le monde ne trouve pas que l'Action biblique est toujours l'endroit le plus merveilleux, parce qu'ils trouvent qu'on est un petit peu casse-pied et trop conservateur. Voilà. On essaye aussi de soutenir la publication « Voir comme Dieu voit », c'est un livre qui a été écrit aussi par Mathieu, et qui pose cette vision. Et puis, ça c'est la dernière conférence 2025 qu'on a organisée en France avec Jonathan Lehman, « L'autorité, un don de Dieu, bon et dangereux ». Et il nous a fait une série de conférences pour expliquer, en tant que pasteur, en tant qu'ancien, quel type d'autorité vous devez exercer dans l'Église. Et je vous donne juste un truc que je trouve génial, qu'il a réussi à formuler. Vous avez l'autorité de commandement et l'autorité de conseil. L'autorité de commandement, c'est la loi. La loi vous dit un truc, si vous obéissez pas, la police vient, elle vous met en prison. Elle a une autorité de commandement. Si vous êtes père de famille ou ancien d'une Église ou pasteur d'une Église, vous n'avez pas une autorité de commandement, vous avez une autorité de conseil. Vous pouvez pas... Dieu ne vous donne pas un mandat pour forcer les gens à faire ce que vous dites. Si vous faites ça, vous êtes un gourou ou un tyran. Mais vous avez une autorité de conseil. Est-ce que l'autorité de conseil, ce n'est pas important ? C'est très important. Parce que moi, quand je donne un conseil, je le donne de la part du Seigneur, donc j'ai intérêt à vérifier mes sources. Sinon, le Seigneur va me demander compte du mauvais conseil que j'ai donné. Et c'est très important pour les membres de l'Église, parce qu'ils ont besoin de cette référence. Et s'ils ne suivent pas le conseil qu'on leur donne du haut de la chair quand on prêche l'Évangile, ils vont devoir rendre compte en tant que membre de l'Église, de ne pas avoir écouté ce conseil qui venait de la parole de Dieu. Mais l'autorité de conseil, ça veut dire que c'est pas moi qui ai la charge de forcer la personne à obéir. Ça, c'est autre chose. D'accord ? C'est un mandat de commandement. Voilà, c'est intéressant pour vous dire auxquelles choses on réfléchit. Et ça, c'est un type de ministère associé. Pierre Kliffel, il a été directeur de l'IBG après Mike Evans pendant 12 ans ou 15 ans. Et actuellement... C'est le président de l'Évangile 21, et il a vraiment un cœur pour proclamer l'Évangile en Afrique. Et notamment, l'IBG a une tradition de cours décentralisés au Sénégal et à Madagascar depuis de nombreuses années, avec des gens, et ils projettent là-bas des professeurs, et avec des cours regroupés sur 2 ou 3 semaines, ils leur font passer d'année en année des crédits pour avoir des certificats de théologie que... ces gens n'auraient pas les moyens de venir se former ailleurs, etc. Et là, c'est l'inverse, c'est l'institut qui se projette. Pierre, il a vraiment un cœur pour proclamer en Afrique francophone, parce que vous savez qu'il y a vraiment beaucoup de francophones en Afrique, et je crois qu'à l'horizon 2050, il y aura 700 à 800 millions de locuteurs francophones. La majorité, ce sera en Afrique. Hein. Ce n'est pas la démographie de la France qui va faire exploser la courbe des francophones. Hein. Et donc, il y a vraiment un ministère spécial. Il a fondé cette œuvre qui s'appelle Didasco Afrique, vous pouvez soutenir son ministère et l'Abbé France contribue à son hébergement. C'est-à-dire que si on fait un don à Pierre, ça vient sur un compte de l'Abbé France qui permet aux donateurs de bénéficier de la défiscalisation. Vous savez que quand vous faites un don à une église, vous pouvez l'utiliser pour votre réduction d'impôt. Et nous, ensuite, on fait transiter ce don vers le salaire de Pierre. Et c'est pour dire qu'on a des ministères associés qui ne sont pas directement... liées à une vie d'église locale, mais qui correspondent aux valeurs que nous croyons et à la proclamation de l'évangile qui nous semble importante. Et je termine avec cette plaque qui est vissée à l'entrée de la propriété de l'IBG. Dans le passé, cette propriété, les gens de l'Action biblique l'appelaient le roc, par allusion à Jésus-Christ. Et pourquoi ? Parce que quand ils ont construit ce bâtiment-là, en creusant les fondations, dans le sous-sol, ils ont trouvé un énorme rocher qu'ils ont sorti, ils ont mis à l'entrée. Et vous ne le voyez pas bien, mais il est sous un des arbres, là. Alors là, on est sur le terrain derrière, sous un des arbres qu'on voit là-bas. Et c'est sur ce rocher-là, qui est à l'entrée, pour symboliser le roc, qu'ils ont mis une plaque gravée avec ce verset « Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Et bien sûr, le roc, c'est Jésus-Christ, hein, c'est pas le rocher qu'ils ont sorti des fondations. Donc voilà, pardon, j'ai beaucoup parlé, j'avais plein de choses à vous dire, j'espère que je vous ai pas saoulé, et je suis ouvert à toutes les questions qui vous sembleront importantes, si vous en avez. Est-ce que je vous ai mis ça pour vous occuper les yeux ?